Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie de mon facétieux complice. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Beaucoup d'émotions dans le studio Coluche cet après-midi. Une température nettement plus élevée que d'habitude. Stéphane va pouvoir tomber le damar. Deux raisons à cela. Tout d'abord, notre thème du jour, éminemment hot, puisque nous partons aujourd'hui à la rencontre de trois personnages de l'histoire connus pour avoir vu le loup. Thème à la fois excitant et frustrant pour ceux d'entre nous qui, en plus de 50 ans d'existence, le cherchent encore.
Ouh, où êtes-vous? On vous cherche partout.
Tout vient à point à qui sait attendre, Stéphane.
Oui, vous avez raison, justement, Mathieu, de citer La Fontaine. Car justement, c'est notre premier personnage à avoir vu le loup. Un loup très présent dans ses fables. Le loup et l'agneau, le loup et le chien, le loup et la cigogne, le loup et le renard. On célèbre aujourd'hui les 400 ans de Jean de La Fontaine, un poète dont les fables n'ont pas pris une ride. Et pour en parler, un invité d'honneur qui connaît ses fables par cœur, Fabrice Lucchini, sera avec nous cet après-midi.
Le vrai ?
Le vrai Fabrice Lucchini.
Ça, c'est fort.
Oui. Puis je vous raconte une autre histoire. Vous avez reconnu la musique ?
Oh oui.
Celle de Pierre et le Loup, et surtout celle de son créateur de génie, Sergueï Prokofiev.
Enfin Stéphane, dans un portrait un peu moins à cheval sur la précision historique, je vous parlerai d'un célèbre acteur qui non seulement a vu le loup, mais c'est même ça qui l'a rendu célèbre, car ça a été filmé. Mmh. Kevin Costner ne danse plus avec les loups parce qu'il a un lumbago et un début d'arthrite, mais que devient-il? On fait le point sur son épatante carrière aux alentours de 17h20. Eux aussi, leur carrière était épatante, en tout cas avant de rejoindre cette émission. Ce sont nos chroniqueurs Stéphane, des chroniqueurs très intéressés, je le sens, par notre thème du jour. Elle a vu le loup pour la première fois sous Pompidou avec un caporal en permission. Et depuis, elle a un faible pour les marches militaires. Sa playlist Love surprend parfois ses partenaires.
Un Français doit vivre pour elle.
Oh, qu'est-ce que j'aime le chant du départ.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, et bien aujourd'hui je vais moi vous parler de Notre-Dame des Amours. Notre-Dame des Amours, c'était le surnom de Ninon de l'Enclos, femme de lettres et surtout célèbre courtisane contemporaine de Louis XIV, et elle a eu une ribambelle d'amants, surtout d'ailleurs d'innombrables amis de qualité. Elle a été aimée de tout son siècle et 400 ans après sa mort, elle a encore des amoureux.
Et lui, il nous entraîne aux origines des objets de notre quotidien. C'est David Castello-Lopez.
Bonjour David.
Bonjour David.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est pas un objet.
Non, c'est pas un objet, c'est une couleur, c'est le fluo.
Ça n'existait pas au XVIIe siècle.
Ça n'existait pas, le fluo du tout. Maintenant, ça existe beaucoup. Ça a même été partout dans nos rues pendant un petit moment, il y a deux ans de ça. Et je vous dirai donc d'où ça vient, qui c'est qui l'a inventé.
Enfin, avec nous, on va parler cuisine, gastronomie, histoire de la gastronomie. Avec un plat signature, comme on dit.
Mythique.
Oui, avec vous, Olivier Pouls.
Nous allons parler du coq au vin. Et comme la saison va plutôt vers le printemps et qu'on n'a peut-être pas envie de quelque chose de trop roboratif, je vous en donnerai une petite version un peu plus légère.
Le coq au vin peut être light, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui au micro d'Europe.
Et surtout, je vous raconterai la légende du coq au vin. C'est amusant.
Mais je me suis toujours demandé, moi j'ai une basse-cour, et le coq est quand même assez agressif. On n'a pas très envie de le manger, voyez-vous.
Moi, parfois, je peux dire que j'ai envie de celui qui me réveille à 6h30 le matin, je le mangerai bien de temps en temps.
C'est la testostérone qui rend agressif, je crois que c'est clair.
J'ai pas envie de manger mon coq. Enfin, bon, bref.
Enfin, les amis, vers 5h10, après s'être fait reprendre sur La Fontaine par Lucchini, Stéphane subira sa deuxième humiliation publique du jour dans Burn to be Alive. Ce quiz dont il sort parfois victorieux, une fois sur 10. Mais tout de suite, plongeons dans le destin d'un homme de lettres qui a vu le loup et pas qu'une fois. Stéphane Bern nous raconte Jean de La Fontaine.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes en 1642. Jean de La Fontaine, âgé d'une vingtaine d'années, a récemment intégré l'oratoire de Paris, l'une des plus sévères congrégations religieuses de l'époque. La nuit, plume à la main, il noircit des pages et des pages. Écrit-il ses célèbres fables? Non? Il est encore loin d'y penser. Il compose des vers satiriques dans lesquels il raille ses voisins de prière. Forcément, on le prie de s'en aller. Le jeune fabuliste aura tenu seulement 18 mois comme apprenti ecclésiastique. Mais au moins, cette expérience lui a permis d'être certain d'une chose, de sa vocation poétique. Revenons aux origines. Jean de La Fontaine naît en juillet 1621 dans une famille bourgeoise de Château-Thierry, une commune française située dans le département de l'Aisne. Durant ses loisirs, le jeune Jean dévore nombre de romans. Il se passionne pour l'Astrée d'Honoré d'Urfé et lit aussi les romans de chevalerie du Moyen-Âge. On dit qu'il passe des nuits entières à apprendre des passages de littérature qui, le jour, il déclame dans les bois. Vers 16-17 ans, Jean de La Fontaine part étudier le droit à Paris. Pour le jeune homme élégant et perruqué, ce sont de joyeuses années. Il courtise les dames et fréquente un groupe d'étudiants férus de littérature qui se sont eux-mêmes surnommés les chevaliers de la table ronde, du nom du cabaret où ils se réunissent. Chacun apporte ses textes et les lit à haute voix pour les soumettre à la critique commune. Imaginez-les, ces jeunes gens enivrés de vin et de poésie, grimpant sur les tables pour trinquer bruyamment à leur future gloire littéraire. D'un naturel rêveur, pour ne pas dire paresseux, Jean de La Fontaine n'est sans doute pas le plus productif lors de ces réunions. Rebelle à tout embrigadement, il écoute et pioche ce qui l'intéresse. Quand il s'ennuie, le voilà qui quitte discrètement l'assemblée ou disparaît pour quelque temps à Château-Thierry, le village de son enfance. C'est d'ailleurs lors d'une de ses escapades hors de Paris qu'il épouse Marie Ricard, issue, elle aussi, d'une famille aisée. Son père l'a mariée, écrit un contemporain, et lui l'a fait par complaisance. Il s'agit d'une union arrangée. Les deux époux se connaissent à peine avant la cérémonie et le mariage n'est pas une franche réussite. Entre ses rêveries littéraires et ses compagnons de cabaret, Jean de La Fontaine a peu de temps à accorder à son épouse et à leur fils Charles. D'autant qu'il a enfin un métier. La trentaine passée, le voilà maître des eaux et forêts, c'est-à-dire qu'il surveille l'état des forêts et des rivières. Il est aussi chargé d'attraper et punir les braconniers, mais cette activité ne le passionne guère. Jean de La Fontaine veut écrire. Il publie une comédie intitulée « L'Eunuque ». Aucun théâtre ne veut jouer sa pièce, qui passe complètement inaperçue. Mais il en faut plus pour décourager notre aspirant homme de lettres. En 1657, Jean de La Fontaine réussit à rencontrer le surintendant des finances Nicolas Fouquet, le personnage alors le plus puissant du royaume après le roi Louis XIV. En échange d'une rente, Nicolas Fouquet lui propose de devenir en quelque sorte son poète officiel. La Fontaine se retrouve à écrire à propos de la naissance du fils du surintendant, du mariage de son frère ou encore de l'actualité politique du moment. Ce n'est pas toujours passionnant, mais au moins La Fontaine peut vivre de son art. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Le 5 septembre 1661, Nicolas Fouquet est arrêté. Le roi l'accuse de s'être enrichi au détriment du royaume, ce qui n'est pas tout à fait faux, et il est envoyé en prison. Jean de La Fontaine a perdu son protecteur. Joueur impénitent, très mauvais gestionnaire et bientôt couvert de dettes, il doit absolument écrire une œuvre qui lui rapportera un peu d'argent. Là, vous vous dites qu'il a bien enfin l'idée d'écrire ses célèbres fables.
On l'attend, là.
Eh bien non, toujours pas. Il entame l'écriture d'ouvrages très particuliers. Le mari confesseur, le cocu battu et content, comment l'esprit vient aux filles. À votre avis, de quel genre de récit s'agit-il ?
C'est un petit peu peut-être coquin ou...
Oui, ce sont des contes libertins qui parlent de plaisir, de mari cocu et de jeune fille trompée. Ces histoires, souvent grossières, existent depuis le Moyen-Âge, mais Jean de La Fontaine les transforme en récits plus raffinés. Et ça fonctionne, les lecteurs se précipitent. La Fontaine devient enfin célèbre et le succès n'est pas prêt de s'arrêter. En 1668, le poète publie un recueil de 124 fables. Là encore, Jean de La Fontaine remet au goût du jour un genre littéraire qui remonte au calende grec. Dès l'Antiquité, un certain Ésope s'était spécialisé dans ses récits mettant en scène des animaux. Lorsque La Fontaine publie ses fables, tout Paris en parle et on les déclame dans les salons. Mais ces jolies histoires d'animaux ont un double sens. Prenons la fable du loup et de l'agneau. Le loup incarne en fait un seigneur bête et méchant qui userait de violence envers le plus faible, en l'occurrence l'agneau. La cruauté du loup est pour La Fontaine un moyen de critiquer implicitement la noblesse qui, à cette époque, a à peu près tous les droits. C'est d'ailleurs amusant de noter que La Fontaine semble avoir une prédilection pour le personnage du loup qui revient de nombreuses fois dans ses œuvres. Le loup et l'agneau, bien sûr, mais aussi le loup et le chien, le loup et le renard. Il y en a d'autres, mais je ne peux évidemment pas toutes les citer. Hélas, malgré le succès de ses fables, la situation financière de La Fontaine ne s'arrange pas. Reste à espérer qu'il ne finisse pas sur la paille. Heureusement, une aristocrate qui répond au doux nom de Madame de la Sablière propose de le loger dans son hôtel particulier. Jean de La Fontaine s'y trouvant fort bien, il y restera 20 ans. En 1684, La Fontaine entre à l'Académie française, non sans mal, car le roi qui ne l'apprécie guère a retardé d'un an son entrée dans la compagnie. En contrepartie, le poète a dû promettre de ne plus écrire de contes libertins. La Fontaine s'essaie encore une fois au théâtre, sans succès, et succombe finalement à ses démons en publiant une nouvelle fournée de contes grivois tout chaud. Décidément, les promesses faites au roi se sont vite envolées. Dans l'un de ses contes, il a même le culot de plaider coupable. « Oh, combien l'homme est inconstant, divers, faible, léger, tenant mal sa parole !» écrit Jean de La Fontaine à propos de lui-même. Et pour bien montrer qu'il n'en fait qu'à sa tête, l'écrivain mène une vie de débauché en participant à des soirées copieusement arrosées dont les invités ne ressortent qu'au petit matin, au mieux en titubant, au pire à quatre pattes. Bientôt, la santé de Jean de La Fontaine se dégrade. Est-ce les excès de toutes sortes ou les soucis financiers? Car à plus de 70 ans, ce panier percé se retrouve de nouveau à la rue sans un sou vaillant. Un couple d'amis, les Hervard, l'accueille et veille au confort du fabuliste vieillissant. Madame d'Hervard est pleine de délicatesse. On dit qu'elle fait remplacer les vieux habits de Jean de La Fontaine par des vêtements neufs coupés à l'identique. Le poète distrait ne s'en rend même pas compte jusqu'au jour où quelqu'un le complimente sur sa tenue. Cette tranquillité d'esprit lui laisse le temps nécessaire pour mettre la main à son ultime recueil de fables qu'il termine ainsi. Cette leçon sera la fin de ses ouvrages, puisse-t-elle être utile au siècle à venir. Je la présente au roi, je la propose aux sages, par où saurais-je mieux finir? Avec un art de la chute exemplaire, Jean de La Fontaine achève son ouvrage sur le mot finir. Coïncidence ou pressentiment, le poète mourra peu après, le 13 avril 1695.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jean de La Fontaine, nous avons l'immense plaisir, que dis-je, l'insigne honneur d'accueillir celui qui connaît ses fables sur le bout des doigts et qui nous fait aimer La Fontaine comme personne, c'est évidemment Fabrice Lucchini. Bonjour Fabrice Lucchini.
Bonjour.
Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous cet après-midi. Grand fabuliste, vous êtes le digne héritier de La Fontaine. On parle de lui, on parle du loup aujourd'hui, de ses fables avec le loup. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui a votre préférence?
Sur le loup, pas tellement. Parce qu'il y a le loup et le chien, mais il y en a des beaucoup plus éblouissants pour moi. Hein. C'est totalement subjectif. L'événement de La Fontaine, c'est quand le moraliste est assez secondaire, contrairement à ce qu'on croit. Mm-hmm. Le moraliste est inspiré d'Ésope, de Pipelet, des livres orientaux, des faits divers. Il y avait des moments où Madame de Sévigné lui racontait un fait divers et il pondait une fable un mois ou deux après. Donc les sources d'inspiration... La grande spécificité unique dans l'histoire de la langue française, peut-être avec Molière, c'est l'adaptateur de génie. Car si vous prenez les fables d'Ésope, c'est lourd, c'est lourd, ça pèse. Et puis ce La Fontaine arrive, prend les fables, les adapte, et ça devient l'incarnation de la fluidité de cette... C'est très mystérieux, on ne sait même pas s'il savait ce qu'il faisait. J'ai une belle fable là, quand je pense à tout ce qu'on a traversé pendant un an, j'en ai une. Si ça vous amuse, vous la dis.
Ça nous amuse beaucoup.
Nous, on est au spectacle.
C'est gratuit. Je vais demander à Europe numéro 1 qui m'envoie le salaire. Parce que là, je tourne en ce moment avec Catherine Faux, donc ça va me mettre en forme pour la scène où on joue une belle scène dans un PMU. Et c'est un grand bonheur de tourner avec Catherine Faux, qui est pour moi une des plus grandes actrices françaises. Et dites-moi, il y a eu un cocorico par moment, on est les meilleurs, on est bien mieux que les Italiens, vous vous rappelez,
l'épidémie,
on est merveilleux, notre système de santé. Vous savez, j'ai eu le privilège de faire tous les 10 jours pour le personnel médical, petite parenthèse, cette société est folle, il y a quelques mois, les gens applaudissaient comme des hystériques, tout le monde était heureux. Et ben maintenant, plus personne n'applaudit. Maintenant, même il y a des menaces de mort aux génies qui s'occupent de nos êtres que nous aimons. C'est une société, comme dirait Muret, festive. Elle a envie d'applaudir, puis elle applaudit moins. Ça me fait penser à la fin du Voyage au bout de la nuit, quand Céline s'engage dans l'armée, il dit cette phrase étonnante, il y en avait plein des patriotes. Et puis il y en a eu moins des patriotes, et puis il y en a eu plus du tout. On était fait comme des rats, et c'est très étonnant. Maintenant, plus personne n'applaudit. C'est très étonnant, alors qu'on doit être avec constamment, dira Emmanuel Macron, que c'est la priorité, les infirmières et tout. C'est pas de la démagogie, moi c'est pas ma... Je suis pas un homme politique, mais ça pour vous dire que... Il y a par moments une arrogance chez les Français, et ça me fait penser à cette fable, Stéphane. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble au fond fou, mais pas si sot. J'ai oublié un mot. Donnons quelques images d'une autre qui, sans doute, en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyait un éléphant, des plus gros, et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage. C'est extraordinaire, parce que comme je suis sur le tournage, j'ai un trou, ce qui ne m'arrive jamais. Et comme je l'ai fait toute par cœur, je vais en dire une autre. Vous avez 2,5 minutes ou pas?
Ah oui, on a bien tout sûr, le temps.
Il y en a une sur la méfiance, vous voyez. Stéphane, il faut faire gaffe, quoi. Il y a du variant de tous les côtés. Il faut continuer à être méfiant. Il faut continuer à être méfiant. Les levantes, alors ça donnerait... j'ai lu chez un conteur de fables... qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort aux rats, les souricières n'étaient que jeu au prix de lui. Comme ils voient que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate, à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment. C'est génial. Le peuple des souris croit que c'est châtiment. Qu'il a fait un larcin de rose, fromage, égratigner quelqu'un, causer quelques dommages, enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête, le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant, ces tours de vieille guerre ne vous sauveront pas, je vous en avertis, vous viendrez tout au logis. Il prophétisait vrai, notre maître Mitis. Pour la seconde fois, les trompes et les affines blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisée, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La gente trotte-menu s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'est un vieux routier. Il savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance et mère de la sûreté. Méfiance dans les cas contacts. Distanciation. Méfiance quand quelqu'un te parle de trop près. Coup de boule s'il t'envoie un vieux postillon. Oui. Évidemment que ce n'est pas une morale sympatoche. Évidemment que ce n'est pas une ouverture sur l'autre. On est dans la demeure. On est dans la demeure, il faut continuer avec les gestes barrières, vacciner ou pas vacciner.
Mais Fabrice, ce que vous montrez en nous donnant ces fables, c'est qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il est d'une modernité folle, La Fontaine. Il est intemporel.
L'âme humaine, Stéphane, a toujours les mêmes composantes. La méchanceté, la bienveillance, la méfiance est souvent utile. Alors, évidemment, c'est pas une morale très ouverte, c'est pas une morale de gauche, pour dire les choses rapidement. C'est une morale plutôt de pessimisme gay. Il a une connaissance de la nature humaine, imprégnée d'un Montaigne, imprégnée d'un Pascal, imprégnée des grands philosophes. Et c'est un sceptique, c'est un merveilleux poète qui évidemment ne croit pas que la nature humaine, c'est pas du tout un rousseauiste, c'est un homme qui a une connaissance sans méchanceté, il a une connaissance de la nature humaine, il sait que les gens sont des saloperies les unes avec les autres, et il travaille, il fait son chemin, et La Fontaine est éternelle dans le sens où effectivement c'est la langue, c'est un moment où la langue atteint cette fluidité. Ça n'a l'air de rien, mais oui. C'est merveilleux.
Ah, c'est merveilleux.
Bonne journée, Stéphane.
Merci, cher Fabrice. Merci beaucoup.
Comme dirait Molière, voici votre paquet. Je vous embrasse.
On vous embrasse, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice Tuquillier. Et pour les amoureux des fables, eh bien, elles sont rééditées, vous savez, dans la collection de la Pléiade chez Gallimard, accompagnée d'illustrations de l'artiste Granville. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que l'éducation nationale, chaque année, les fait éditer pour les élèves aussi, avec un artiste qui les publie chaque année. Hein, n'est-ce pas, Fabrice?
Oui. Mais je suis pas trop pour que les enfants... Il faut les enfants et surtout les adultes. C'est ce que j'ai dit à Blanquer. Non, il faut leur donner envie de les lire, mais il faut d'abord comprendre que quoi qu'il arrive, le niveau est tellement sublime qu'ils les liront surtout après. Alors, bon courage. Et à bientôt.
Et bon tournage. On vous embrasse, Fabrice. Merci beaucoup.
Au revoir. Vous envoyez le chèque à la poste restante à rue Cadet dans le 9e. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires avec le souci du détail, surtout quand il est bien caché. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine voudrait raconter la vie haute en couleur d'une femme de lettres qui ne s'en laissait pas compter. C'est Ninon de l'Enclos et qui ne faisait pas que des lettres. Tout de suite, Stéphane.
Elle est née en 1620. C'est une contemporaine de La Fontaine et du roi Louis XIV. Une femme qui devait sans doute beaucoup à son père. Son père était un gentilhomme tourangeau libertin et son grand objectif, c'était surtout que sa fille ne devienne pas une bigote. Donc elle lui doit beaucoup. Elle se doit beaucoup également à elle-même parce que c'était une enfant prodige, Ninon, aux luttes, au clavecin. Alors, comme sa mère est une femme cultivée qui lui enseigne aussi ses classiques, imaginez cette adolescente qui se produit dans les salons, elle joue merveilleusement du luth et du clavecin, et puis elle cite Montaigne entre deux phrases musicales. Évidemment, elle fait sensation dans les salons, elle chante, elle danse merveilleusement, elle a beaucoup de conversations, une culture très étendue, elle parle l'italien, l'espagnol, elle s'intéresse aux sciences. Et à l'époque, elle a vraiment la classe, c'est une jeune fille accomplie. À l'époque, on aurait dit elle a la grâce, elle était plus que belle, elle avait la grâce. Et par ailleurs, oui Stéphane, vous le disiez, elle était d'humeur galante, Ninon. Elle est connue pour avoir eu beaucoup d'amants, mais pas par nécessité financière. Parce que quand son père est mort, il lui a laissé 7 ou 8 000 livres de rente, ce qui ferait aujourd'hui dans les 400 000 euros par an. Il y a quand même de quoi voir venir, on peut voir venir, on peut mener grand train, on peut recevoir des amis.
C'est vous, Stéphane Métis.
Alors, les marques de fabrique de Ninon de l'Enclos, c'est ça, libertinage, épicurisme, athéisme affirmé, et liberté de n'en faire qu'à sa tête. « Mon Dieu, disait-elle parfois, faites de moi un honnête homme, mais n'en faites jamais une honnête femme. » Elle eut son premier amant à 16 ans, alors après quoi elle les collectionne et elle les classe en catégories. Oui, ça paraît bizarre que ce soit une femme qui fasse ça, hein, comme Rodolphe, le fils de Sissi, hein, celui de Meyerling, lui notait ses conquêtes dans des petits carnets. Ben là, c'est une femme, pour une fois, qui le fait. Et alors, elle les classe en payeurs, Martyrs, les martyrs, ce sont les soupirants sans espoir. Oh. Et caprices, caprices, ce sont les élus du moment. « Attendez mon caprice », disait-elle en soupirant au plus pressé. Ces caprices ne dureraient jamais longtemps. Hein. Ces passades, c'était 3 mois au plus. C'est déjà l'infini pour moi, soupirait-elle. Alors, ribambelle d'amants, impossible d'en dresser la liste, mais parmi les plus illustres de ses contemporains, on signale le Grand Condé. Mais le Grand Condé,
qui
quand
était
il était
très laid.
Ah, bah oui, mais jeune, couvert de gloire. Et
il était couvert de boutons.
Bon, mais
ouais,
peut-être. Oh, bon, mais, on s'en fiche.
Vous avez des détails dermatologiques.
Dans le noir, ça passe.
Vous n'avez jamais vu dans le noir, ça passe.
Dans le noir, ça passe. Voilà une phrase qui peut être utilisée.
Non, mais vous avez vu les portraits du Grand Condé quand même.
Parce qu'on le peignait, on le photoshopait pas, si j'ose dire.
Ben non. Ah non, parce que les grands hommes n'ont pas cette faiblesse de demander à ce que l'on arrange leur portrait. Regardez la grande mademoiselle au château de Saint-Fargeau, elle était très laide et elle a pas obtenu ou pas demandé qu'on améliore son portrait. Il y a le François de la Rochefoucauld, l'astronome Huygens qui ont été ses amants. Et Huygens a fait sur elle ce quatrain. Elle a 5 instruments dont je suis amoureux. Les 2 premiers, ses mains, les 2 autres, ses yeux. Pour le plus beau de tous, le 5e qui reste, il faut être galant et leste. Bon. Alors, Notre-Dame des Amours.
Ah bon, je vois pas ce que c'est.
Vous voyez pas ce que c'est. Alors, Notre-Dame des Amours, parmi ses amants, de Miocins, Châtillon, Brancasse, Navaille, Rambouillet, le château de Méret, le marquis de Sévigné, le mari de la marquise, on dit qu'il fut son amant. Et elle aurait eu aussi le fils de la marquise, qu'elle estimait un garçon doux, mais médiocre et sans volonté. Ninon l'avait bien jugé. C'était une âme de bouillie, un corps de papier mouillé, un cœur de citrouille fricassé dans la neige. Enfin, un homme au-dessous de la définition. Rien de tel avec Monsieur de Villarceau qui fut son vainqueur le plus durable parce qu'elle l'aima 3 ans. Et c'était pour sa part un maximum tout à l'éloge de ce Monsieur de Villarceau. Preuve de ce statut exceptionnel dans le cœur de Ninon, un jour il reçoit un paquet, ce monsieur, qui contenait la chevelure de Ninon. Et l'entourage était extrêmement surpris de cette relation qui durait. Elle vieillit, disait-on autour d'elle. Elle devient constante, ça paraissait très étonnant. Elle eut un enfant, un fils, Ninon. On ne savait pas qui était le père. Est-ce que c'était l'abbé d'Effia ou le maréchal d'Estrée? Alors, comme chacun était persuadé d'être le père, ils ont fini par décider de s'en remettre au hasard. Ils ont joué la paternité. Ils ont joué la paternité au dé. Ce fut le maréchal qui gagna. Il éleva très bien ce garçon qui devient un brillant capitaine de vaisseau. Et l'autre anecdote très connue...
Il le sait qu'il a été joué au dé, cet enfant? Psychologiquement,
je pense qu'écoutez, vu l'esprit de sa mère et vu l'esprit du temps et sans doute de ses pères aussi, peut-être le lui ont-ils avoué par la suite. Et il y a un épisode très connu, c'est un certain Lachâtre qui était un amant éperdu de Ninon. Et un jour, il est obligé de s'absenter. Alors, il exige d'elle qu'elle lui signe un billet de fidélité. Et elle jure par écrit de ne pas le tromper pendant son absence. La Châtre s'en va. Évidemment, Ninon instantanément est dans les bras d'un autre. Et au moment le plus apocalyptique, elle est là, elle dit à son amant, le bon billet qu'a La Châtre. Ça fait rire tout Paris. Et à l'époque, si vous étiez à exclamer, le bon billet qu'a La Châtre, tout le monde comprenait que, bon, en gros, vous croyez que vous étiez cocu, quoi, en gros. Elle était aimée de tous, Ninon. Ses amants congédiés restaient ses amis. Elle les réunissait dans son petit hôtel de la rue des Tournelles, où il y avait aussi des femmes d'esprit, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Madame de la Sablière, bon, et parmi les autres invités, Gassendi, Molière, Madame de Maintenon était son amie, quand elle n'était que la veuve Scarron, après elle pouvait plus trop fréquenter quelqu'un d'aussi sulfureux. Tous les libertins avaient chez Ninon leur quartier général, c'est une société brillante, gaie, un havre pour la liberté d'esprit, on aurait voulu en être à l'époque, et Diderot aimait à dire que les amis de Ninon de l'Enclos étaient les prédécesseurs des encyclopédistes. Alors, Diderot, ce même Diderot, raconte que Ninon aurait eu son dernier amant à 80 ans, le jeune abbé Gédouin. Elle resta avec lui 1 an et ce fut elle qui en eura le bol et qui le laissa tomber. Elle a attendu pour qu'il puisse la conquérir vraiment et à tous les sens du terme. Et elle avait 79 ans et elle l'a fait poireauter jusqu'à 80 ans parce qu'elle voulait se dire, oui voilà, j'ai encore pu avoir un jeune amant à 80 ans. Et une fois... On lui présenta un petit garçon de 10-11 ans qui faisait des vers. Elle le prit en affection. Et quand elle mourut, elle lui laissa 2000 livres pour qu'il s'achète des livres. Ce garçon, c'était Voltaire.
Quelle histoire.
Elle savait choisir les hommes, cette Ninon. Hein.
Je sais que c'est votre modèle, Clémentine. Bravo.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Clémentine pour cette belle histoire qui a fait rire Stéphane par les noms rigolos qu'on a pu y entendre.
Vrai,
bah, oui, écoutez, oui, c'est extraordinaire.
Il s'appelait la chatte.
Oui,
excusez-moi,
c'est
mais...
Amusant. Et son billet de fidélité, il se rend des comptes, fait signer un billet de fidélité à sa maîtresse. Je jure que je ne te tromperai pas en ton absence.
Rire avant de pleurer. Quoi de mieux qu'un jeu, les amis, pour révéler la vraie nature des gens. Stéphane Bern, par exemple, déteste perdre, ce qui tombe mal, vu que chaque jour nous jouons à Bern to be Alive, un quiz Vizsla, dont il ressort rarement grandi, et où sa mauvaise foi atteint des sommets lorsque, à la question de savoir si un tel est mort ou en bonne santé, il répond « en bonne santé » alors que le type est mort, et qu'au lieu de reconnaître sa défaite, il marmonne.
En bonne santé, mais mort quand même, c'est vrai.
Jouons avec un peu plus de dignité que ça à Bern to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous, et à mon sens, la question a déjà été abordée dans cette émission, et vu que vous avez bonne mémoire, je ne désespère pas d'entendre une bonne réponse. Marguerite Yourcenar, Pythagore, Léonard de Vinci et Georges Bernard Shaw, ils avaient un point commun, ils étaient tous végétariens. Vrai ou faux ?
Ben oui, on en a parlé dans cette émission, oui. Oui, c'est vrai.
Vous vous lancez directement ?
Non, mais je crois qu'on a dit que Marguerite Yourcenar...
Pythagore... Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci, oui, était végétarien.
Et Georges Bernard Shaw.
Je connais Georges Bernard Shaw, mais je ne savais pas s'il ne mangeait pas de viande. En tout cas, oui, ils sont végétariens.
Vous avez gagné !
Comme vous, peut-être, Stéphane a réécouté le podcast de notre quatrième émission de la saison, où effectivement, il y avait la réponse à cette question. Belle mémoire, Stéphane. Pour Pythagore, je cite, « La nature nous donne des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. » Yourcenar dit, « Je ne vois pas comment je pourrais digérer de l'agonie. » De Vinci pensait, comme les hindous, « On ne mange pas ce qui contient du sang. Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. » C'est une citation de Georges Bernard Shaw. D'ailleurs, ce dernier était très maigre. Un jour, Churchill lui a dit, « À vous voir, tout le monde pourrait penser que la famille règne en Angleterre. » Georges lui a répondu, à vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est vous qui en êtes la cause.
Est-ce qu'on peut faire une petite réclamation là, monsieur le Président ?
Une question trop facile peut-être.
Est-ce qu'il est bien normal que l'on repose à Stéphane une question qui a déjà été posée
Oui, mais parce que la personne qui rédige le quiz ne s'en souvient pas et n'écoute pas les émissions.
Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui ne soit pas gâteux pour rédiger les questions ?
On fera la demande à la direction. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Calvac. Ça, je peux vous garantir que c'est une question qui n'a jamais été abordée dans notre émission.
Oui, bien sûr.
31 août 1991, c'est une date importante pour le peuple ouzbek, puisque c'est la date de leur indépendance vis-à-vis de l'ancienne République soviétique. La devise de l'Ouzbékistan, Kelajagi Buyuk Davlat, comprenez aujourd'hui mieux qu'hier, mais moins que demain. Est-ce la devise de l'Ouzbékistan ? Kelajagi Buyuk Davlat.
Ce qui est curieux, c'est que ça fait penser plutôt à une expression qui appartient au registre amoureux, plus qu'hier, moins que demain.
Il y avait des bijoux qu'on faisait comme ça où il y avait écrit ça.
Mais écoutez, ça pourrait tout à fait, regardez, que ce soit l'espèce de digestion d'une expression de l'ancien empire soviétique, plus qu'hier, moins que demain, ça paraît un peu niais et en même temps, pourquoi poseriez-vous la question ? Allez, je réponds oui, ne parlant pas ouzbek, de toute façon, je...
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, mais votre raisonnement était assez juste. La devise de l'Ouzbékistan est un peu niaise. Ce n'est pas mieux qu'hier, mais moins que demain. C'est l'Ouzbékistan est un État au grand avenir. Voilà, une nation optimiste. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Charlton Heston, célèbre acteur, partisan des armes à feu, a été opérateur radio pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans le service qui a appris en premier la mort de Staline. Charlton Heston a donc été l'un des premiers Américains à apprendre la nouvelle. Vrai ou faux ?
Ah, ce serait sympa, ça. Oui.
Donc en 1953, il était opérateur radio. Est-ce que c'est crédible ? En 1953, Charlton Heston était en train de faire son service militaire.
On avait envie de lui dire « arrête ton char, Vénure », mais...
on n'a pas dû lui faire souvent.
Vous croyez qu'on lui a fait souvent ?
Lors de ses séjours en France.
Attends, il fallait qu'il...
Non, mais voyez-vous, Clémentine, il ne faut pas prendre ce quiz trop au sérieux.
Clémentine, elle est là pour gagner.
Oui, mais vous êtes là pour...
Contrairement à
vous,
Stéphane.
Pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour gagner. Moi, je suis là pour m'amuser, voyez-vous. C'est un moment de détente. Je dirais oui. Charlton Heston était opérateur radio et il a... C'est lui qui a appris d'abord la mort de... Sinon, je ne vois pas pourquoi vous auriez inventé cette histoire.
Vous avez... perdu.
Oui, c'est ça, voilà. N'aimez pas anglais sur mon sérieux.
En se disant pourquoi j'aurais posé cette question, puisque
parce que vous
c'est mon plaisir. Non, c'est faux, mais pourquoi ai-je dit Charlton Heston ? Oui. Parce que c'est Johnny Cash. I keep the ends up for the tie that binds, Le célèbre chanteur de country travaillait en 1953 à l'US Air Force dans un service d'interception de messages codés. C'est lui qui a appris en premier la nouvelle du décès de Staline. Il l'a révélé dans son autobiographie parue en 1997.
Et toc.
Oui, alors là, c'est pas grave, vous avez jamais un point d'avance.
Un point sur les points. 1 à 0. Attention, question donc décisive, Clémentine. Muntazer El Zaidi est un journaliste
irakien. Oui, bien sûr. Éternuez-moi ça.
Muntazer El Zaidi.
Oui. C'est le dictateur d'Ouzbékistan.
Pas du tout. C'est un journaliste irakien mondialement connu.
Ah, bien sûr.
En décembre 2008, c'est lui qui lance sur George Bush pendant une conférence de presse ses deux chaussures.
Vous
vous souvenez de ça? Aujourd'hui, il existe une sculpture géante en Irak à la gloire de ce geste. C'est une énorme chaussure. Vrai ou faux?
C'est vrai.
C'est vrai ça, Stéphane?
Bah oui, j'ai lu ça quelque part, mais dans le coin de...
La fiabilité des sources.
Oui. C'est parfois dans le fracas du monde, on lit des choses, on entend et après ça se bouscule.
Ouais,
dans
c'est le rigolo. Fracas du monde. Écoutez-moi, comme Stéphane avec Charlton Heston, opérateur radio, je trouve que cette histoire mériterait d'être vraie et donc je réponds oui, il existe un monument. En forme de chaussure.
Le monument à la chaussure dans le fracas du monde, disait Baudelaire. Berne.
Vous avez gagné.
Bonne réponse, ouais. Égalité. Alors, je suis content.
Elle est contente. J'ai aidé ma copine.
Merci,
Clémentine.
C'est gentil, Stéphane.
Mais comme elle
vous savez à quoi il ressemble, ce monument? Elle est grande, cette godasse?
Je vais vous en parler.
Ah bon, allez-y.
C'est dans le guide du petit futé spécial Tikrit. Lonely Planet, deux jours à Tikrit. Ville natale de Saddam Hussein, les deux chaussures n'ont pas touché le président Bush. Le journaliste a été tout de suite arrêté par les services secrets américains qui lui ont cassé le bras dans la foulée. Il sera ensuite torturé pendant 36 heures. Il fera un an de prison. Mais en ressenti prison irakienne, faut multiplier au moins par 7. La taille de la statue n'est pas dans mes notes, mais ça doit être une belle chaussure, au moins du 45 ou du 46. Question numéro 5 pour vous deux, c'est la question qui va vous départager. Si vous pouviez le voir, vous le reconnaîtrez tout de suite. Qui est Frank Figel, un Américain d'origine polonaise, né en 1868? Trois propositions. 1868. Trois propositions. Qui est Frank Figel? L'homme qui a inspiré l'oncle Sam, l'homme qui a inspiré Popeye ou l'homme qui a inspiré l'incroyable Hulk?
Deux.
Popeye.
Quel dommage, Stéphane.
Ah non.
La réponse n'était pas deux, mais Popeye, il n'a pas inspiré le personnage.
Vous m'aviez dit... Non mais c'est à deux... Non mais, pardon, je demande à la Cour suprême des... Non parce que vous avez dit, il faut aller plus vite.
Il faut aller vite, allez. Pour une fois, c'est vous qui gagnez, Stéphane. C'est effectivement lui qui a inspiré le personnage de Popeye. Frank Figel s'est engagé dans la marine en 1887, puis il a raconté ses aventures aux enfants. Physiquement, c'est vraiment Popeye, parmi les enfants qui écoutaient ses récits, celui qui a créé le personnage de dessin animé qui va naître.
Il était tchèque ou polonais, je crois, d'origine.
Il était d'origine polonaise.
Polonaise,
c'est une très belle victoire de Stéphane,
qui s'est imposée
sur le film.
Mais
c'est la rapidité.
Ça va plus vite, vous voyez. C'est un truc de rapidité.
La prochaine fois, adoptez la même technique. Dites le chiffre, ça ira plus vite. Bravo Stéphane.
Désolé.
Le pragmatisme a triomphé dans un monde, dans le fracas du monde.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, ce qui personnellement ne m'étonne pas car je sais que vous avez du goût. Et en même temps, vous aimez déconner, vous êtes au bon endroit car à mes côtés, le plus déconneur des férus d'histoire. C'est à lui évidemment qu'on doit notre thème du jour. Ils ont vu le loup, vous êtes fier de vous Stéphane?
Très fier. Bon, il faut dire qu'on s'est régalé tout à l'heure avec Fabrice Lucchini qui nous disait du La Fontaine. C'est vrai que Jean de La Fontaine, 400 ans. Et la fête continue maintenant avec Serge Prokofiev. Lui aussi, il a vu le loup. Il en a même fait une musique célébrissime qui a bercé des générations d'enfants, dont vous, j'imagine,
oui,
Mathieu.
Ça me faisait peur, moi.
Bah oui, Pierre et le loup. Bah oui, parce que cette histoire est quand même terrible. Mais si j'ai bien compris, il y a plus important que Prokofiev dans votre construction personnelle, Mathieu. Il y a eu Kevin Costner.
Je le confesse volontiers, Stéphane. Voilà, c'est pas ma faute. Simplement, Danse avec les loups est sorti en 90. J'avais 8 ans, un âge où, classiquement, l'orientation sexuelle se décide. Et quoique farouchement attiré par la gente féminine, j'avoue que le charisme de Kevin Costner dans ce film m'a troublé. Je vous rassure, ce n'est pas de moi dont je vous parlerai tout à l'heure, mais bien du destin de Kevin Costner, la star hollywoodienne des années 90.
Des stars, bah forcément hollywoodiennes, bah on n'en manque pas dans ce studio, hein. Ce sont nos chroniqueurs vedettes. D'abord, David Cassel-Lopez, qui nous raconte chaque jour les origines de quelque chose qui nous interpelle dans la vie quotidienne. Là, c'est
tout à fait. En tant que chroniqueur vedette aujourd'hui, je vais vous parler du fluo.
Du fluo.
Les choses qui brillent le jour, parce qu'il y a aussi des choses qui brillent la nuit.
La modernité, c'est vous. Le classicisme, c'est plutôt Olivier Pouls.
Oui, mais en tant que vedette de la rue des Cévennes, je vais vous parler du coco vin, de l'histoire très amusante de cette recette. Et puis, je vous en donnerai aussi une recette, puisque je sais que Stéphane a des poules et des coqs dans son poulailler. Donc, quick.
Ah, mais je ne mange pas, vous êtes fou.
Ah bon? Comment ça, vous les mangez
pas, mes animaux?
Vous les laissez mourir de leur belle mort?
Bah oui.
Comme ça.
Et je les enterre et je leur fais les funérailles. Mais vous vous rendez pas compte, on ne peut pas manger ses propres animaux. C'est mes copines, vous voyez, elles me font des œufs, je les remercie.
Vous les avez nommées?
Oui, bien sûr, elles ont des noms.
Ah, lesquels? Vous pouvez nous révéler quelques noms de poules?
Bah, la coucou de Maline, je l'appelle Béatrix.
Une poule belge?
Poule belge. J'ai la reine Victoria, une Sussex. J'ai les deux, Eugénie et Béatrice. Elles sont rousses, donc c'est les deux filles York. Il y a Paloma et Carmen, c'est les UP, vous savez, les deux petites poules qui ont des plumes sur la tête. Il y en a une autre aussi, il y a une Vorvec.
Et le coq,
Juliana.
C'est Mathieu, non, le coq?
Le coq s'appelle Mathieu, maintenant.
Et demain, nous ferons, n'est-ce pas, les vaches, parce que vous en avez aussi beaucoup.
Chèvres, Marguerite.
Ah, les chèvres, vous avez des chèvres aussi?
Pâquerettes et Marguerite.
C'est pas possible.
Et des oies, j'ai deux oies de Guinée. Alors, je pensais que c'était deux femelles, on me les a vendues comme telles, et malheureusement, je crois qu'il y a un mâle dans l'eau, si bien qu'il y en a une qui est toujours couchée pendant que l'autre prend son bain. Si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois tout à fait ce que vous voulez dire et j'ai hâte d'en connaître plus. En même temps, tous ces animaux, 40 hectares, c'est grand.
Mais non.
D'où vient, Stéphane, le mot patraque? Ça sera le fin mot de l'histoire, finalement.
Mais là, je suis patraque. D'où ça vient? Je vous raconterai, c'est une histoire incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer.
Vous êtes sûr, mais vous ne pouvez pas savoir ce que j'imagine?
Si.
Si, vous me connaissez si bien. Tout de suite, les amis, partons à la rencontre d'un compositeur qui, lui aussi, a vu le loup. Stéphane Bern nous raconte, Serge Prokofiev.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes en 1915 à Petrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg. Un officier russe reconnaît Sergueï Prokofiev, âgé d'à peine 24 ans, mais déjà prodige de la musique. Il lui déclare avec un grand sourire, cher ami, j'ai assisté récemment à l'un de vos concerts et je dois avouer, à ma honte, que je n'y ai pas compris grand-chose. Sergueï Prokofiev continue de feuilleter la revue qu'il était en train de lire et, sans même regarder son interlocuteur, marmonne tout haut. Eh oui, n'importe qui a le droit d'acheter une place au contrôle. Cette scène, racontée par le musicologue Michel Rostislav Hoffmann, qui a eu accès aux archives de la famille Prokofiev, nous donne une assez bonne idée du caractère ombrageux de Sergueï Prokofiev, l'un des plus grands compositeurs russes du XXe siècle. Mais revenons aux origines. Sergueï Prokofiev voit le jour le 23 avril 1891. Avant même sa naissance, le futur virtuose baigne dans une ambiance musicale puisque sa mère, enceinte, passe des heures à jouer du piano. Peut-être est-ce pour cette raison que les dispositions musicales de Sergueï Prokofiev se manifestent aussi précocement. À l'âge de 4 ans, quand sa mère s'installe devant son clavier, il grimpe sur un tabouret à ses côtés pour se livrer à des improvisations. Il invente des petits airs et sa mère, convaincue du génie de son fils, ne tarde pas à lui donner des leçons. À 13 ans, Sergueï Prokofiev devient élève du conservatoire de Saint-Pétersbourg où il suit les classes de piano et direction d'orchestre. À la fin de ses études, il travaille d'arrache-pied pour se présenter au prestigieux prix Rubinstein. Les candidats jouent habituellement un extrait du clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Mais Prokofiev, anticonformiste et surtout sûr de son talent, annonce qu'il interprétera certes un morceau de Bach, mais surtout l'une de ses propres compositions. Le jury est stupéfait par tant d'audace, mais Sergueï Prokofiev joue d'une manière tellement éblouissante qu'il est impossible de lui refuser le premier prix. C'est le début d'une série de succès pour le jeune prodige. Il se lance alors dans une tournée européenne et compose son opéra Le Joueur, d'après le roman de Dostoïevski. Quand la révolution russe éclate en 1917, Sergueï Prokofiev part aux États-Unis. Ses talents de pianiste séduisent le public américain qui le surnomme « l'homme aux doigts d'acier » et le directeur de l'opéra de Chicago lui demande de composer un opéra. Ce sera « L'amour des trois oranges » d'après Carlo Gozzi. Prokofiev se met au travail à quart d'heure, mais une scarlatine doublée d'une diphtérie l'oblige à s'arrêter. Transporté à l'hôpital, il dissimule du papier à musique sous son oreiller et pique de violente colère lorsque les médecins le forcent à se reposer. Finalement, l'amour des trois oranges rencontre un beau succès à Chicago, mais fait un flop à New York. Sergueï Prokofiev, qui estime que sa musique est mal comprise des Américains, rejoint la France et Paris. Il y rencontre les artistes de son temps, comme le peintre Pablo Picasso et Henri Matisse, qui fait de lui un portrait au fusain. Sergueï Prokofiev y apparaît très sérieux, les cheveux bien peignés, petites lunettes rondes sur le nez et cravate serrée sous son col de chemise. En France, la musique de Prokofiev est mieux accueillie. Travailleur acharné, il entame un opéra, L'Ange de Feu, compose son ballet, Le Pas d'Acier, et termine un célèbre concerto pour piano numéro 3 en 1921. Malgré cette œuvre prolifique, Prokofiev ne roule pas sur l'or. Avec son épouse Lina, cantatrice rencontrée aux États-Unis, il s'installe dans un tout petit appartement parisien. Prokofiev passe le plus clair de son temps au clavier, si bien que les voisins finissent par en avoir assez. Le compositeur répond qu'il travaille. On lui rétorque que jouer du piano, c'était pas du travail. Alors, animé d'un féroce esprit de revanche, le compositeur achète des caisses et se met en devoir de les clouer à longueur de journée. En 1927, après 9 ans d'absence, Sergueï Prokofiev effectue une tournée en Union soviétique. Les concerts qu'il donne ou qu'il dirige à Leningrad, Moscou, Kiev ou Odessa se déroulent dans une atmosphère d'exaltation inoubliable, les Russes ayant l'impression de retrouver enfin leur fils prodigue. Sergueï Prokofiev s'installe à Moscou avec son épouse et leurs enfants. Bientôt, de nombreux artistes commencent à être persécutés par le gouvernement stalinien, mais ce n'est pas le cas du célèbre compositeur qui dispose d'un appartement, d'une voiture, d'une résidence secondaire. Il est épargné, mais en 1937, plusieurs de ses œuvres sont censurées. Et bientôt, il n'a plus le droit de sortir du RSS pour faire des tournées. En juin 1935, Prokofiev emmène ses fils au théâtre pour enfants de Moscou. La directrice du théâtre l'aperçoit dans sa loge où il rit encore plus fort que sa progéniture. Prenant son courage à deux mains, elle lui demande de composer un conte musical pour enfants, mais il y a un hic, son théâtre n'a pas de quoi payer un aussi grand compositeur. Quelques jours après, Prokofiev l'appelle au téléphone. Cela me plaît. L'essentiel, c'est de trouver un langage commun avec les enfants. Et lorsque plus tard, la question financière ressurgit, le compositeur élude. De toute façon, cela m'intéresse, je vais l'écrire. Vous me payerez ce que vous pourrez. C'est ainsi qu'en 1936, naît Pierre et le loup, dont Sergueï Prokofiev invente lui-même le scénario et le texte. L'intrigue est très simple. À la campagne, Pierre vit avec son grand-père entouré d'animaux. Mais un loup les menace. Heureusement, le malin petit garçon réussit à capturer le prédateur. Comme le compositeur l'explique lui-même, chacun des personnages de ce conte est représenté par un instrument de l'orchestre. L'oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette staccato et le loup par les trois cors. Dans la foulée, Prokofiev s'intéresse au cinéma, entamant une collaboration fructueuse avec le célèbre cinéaste Eisenstein, pour qui il compose la musique des films Alexandre Nevsky et Ivan le Terrible. En 1941, Sergueï Prokofiev collabore avec l'écrivaine Mira Mendelssohn sur son opéra Guerre et Paix. On raconte qu'elle aurait été chargée par le KGB de charmer et de surveiller le compositeur. Rien n'est moins sûr, mais toujours est-il que Prokofiev quitte son épouse. C'est un coup dur pour Lina Prokofiev, d'autant qu'elle est arrêtée pour espionnage et envoyée au goulag pendant plusieurs années. Visée lui aussi par le gouvernement, Prokofiev, critiqué publiquement, n'est pas en mesure de l'aider. Le 5 mars 1953, il meurt à l'âge de 61 ans. Une ou quelques heures avant, Staline l'a précédé dans la tombe. Pour ne pas faire de l'ombre aux funérailles du dictateur, Sergueï Prokofiev est enterré discrètement et sa mort n'est annoncée par les médias que plusieurs jours plus tard.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Sergueï Prokofiev, nous sommes avec la musicologue et auteure Laetitia Leguet. Bonjour Laetitia.
Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Laetitia Leguet, vous êtes maître en conférence en littérature à l'université de Cergy-Pontoise et auteur de Serge Prokofiev, une biographie publiée chez Actes Sud que vous avez dans les mains.
Exactement, Mathieu. Qui tient dans ma main.
Oui, très Prokofiev, bon. C'est d'abord pour nous tous Pierre et le loup. Qu'est-ce qui rend, à votre avis, ce chef-d'œuvre si populaire et si universel ? Est-ce que ça tient simplement au fait que c'est une œuvre qui a été composée pour enfants ?
Alors là, sans aucun doute, la carrière de cette œuvre a commencé parce que c'était une œuvre pour enfants. On peut rappeler, donc vous l'avez évoqué dans votre récit, que Prokofiev en fait a été sollicité par Natalia Satz, et c'était un peu une première parce que auparavant dans la musique on a souvent des évocations de bruits d'animaux, descriptions de chants d'oiseaux, enfin dès l'époque baroque avec Couperin, le Rossignol en amour ou Rameau, l'appel des oiseaux. Mais la particularité de Prokofiev, ça a été d'associer vraiment un animal à un instrument, et par là de personnaliser vraiment les instruments et donc de les rendre d'accès plus familiers, plus vivants aux enfants. Donc ça, je pense, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est le, je pense qu'il faut insister sur le talent de conteur de Prokofiev. Prokofiev a dit dans son journal, il a tenu un très long journal dans lequel il écrit que s'il n'avait pas été musicien, il aurait aimé être écrivain. Et en 18, quand il a quitté la Russie, il a pris le Transsibérien. Et pendant tous ses journées de train, il a écrit des nouvelles formidables. Dont une qui s'appelle La Tour Vagabonde, où la Tour Eiffel sort de son emplacement et se met à marcher à travers l'Europe. Et donc il y a un vrai talent d'écrivain aussi de Prokofiev.
Mais alors moi, personnellement, qui ne connaissais pas du tout la vie et la personnalité de Prokofiev, je suis presque surpris dans le récit de Stéphane, au moment où il accepte de faire cette musique pour enfants. J'aurais imaginé plutôt un personnage très imbu de lui-même, très hautain, très sûr de sa musique, et j'aurais imaginé qu'ils disent non, une musique, faire de la musique pour les enfants, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout, en fait, il y a une part d'enfance dans Prokofiev, en fait.
Il y a une part d'enfance, il y a une part d'intérêt, de proximité avec le monde des contes. Jeune, il a mis en musique Le vilain petit canard d'Andersen. Après, il a son premier ballet qui s'appelle Shoot, le bouffon est tiré de contes russes. Et donc, il était très proche. Oui, un côté prime sautier, enfantin chez Prokofiev, en même temps qu'un côté insolent, tête à claque. Mais c'est un personnage très complexe avec de multiples facettes.
Mais dans Pierre et le loup, non seulement, comme vous le disiez très justement, chaque instrument est personnifié, mais Prokofiev va beaucoup plus loin en illustrant musicalement des caractères. Et ça, c'est assez rare. Est-ce qu'on peut peut-être le raconter et donner des exemples ?
Alors en fait, ce que fait Prokofiev, c'est qu'il reprend un peu la méthode des leitmotifs, c'est-à-dire associer non seulement un timbre, alors il explique lui-même qu'il prend la douce clarinette pour le chat, le hautbois mélancolique pour le canard, mais après, dans le phrasé, il y a des éléments qui évoquent le caractère de l'animal. Et donc, par exemple, enfin, je ne vais pas être trop précise, mais la phrase du chat, de la clarinette, elle est staccato, c'est-à-dire les notes sont détachées, on voit l'image des pattes qui se posent dans l'herbe, et le texte nous dit en même temps que le chat se faufile dans l'herbe. Et puis, ou si on prend l'oiseau, par exemple, il y a le motif est très virevoltant, et là aussi, on imagine l'oiseau qui vole autour du chat, qui vole autour du loup à la fin, puisque c'est la demande de Pierre, distrait le loup et vole autour de lui.
Ce talent pour faire surgir des images avec la musique, c'est ce qui explique que ces musiques soient des belles musiques de films, par exemple. C'est vraiment un don propre à Prokofiev.
Oui, c'est un don propre à Prokofiev. Il a toujours été attiré par le côté visuel. Voilà. Alors, par exemple, si on veut prendre juste un petit détail, l'un des passages extraordinaires d'Alexandre Nevsky, c'est la bataille sur la glace. Et Prokofiev a l'idée, par exemple, de faire un son très raclé, râpeux, en faisant jouer les cordes tout près du chevalet. On a l'impression de pas sur la glace. Donc, il y a vraiment un don de l'image.
Puisqu'on parle du loup, c'est vrai que le loup, c'est le prédateur. Certains ont vu dans Pierre et le loup une métaphore du pouvoir soviétique. C'est une surinterprétation, selon vous, ou ça correspond à une réalité ?
Ça correspond à une réalité si on regarde le destin de Prokofiev, qui a été une sorte de descente aux enfers à partir du moment où il est rentré en URSS. Alors, pas linéaire. Enfin, il y a eu le succès de Pierre et le loup quand il est arrivé. Après, en 37, toutes ses œuvres ont été censurées. Il est remonté un peu au moment où il a fait les musiques de films avec Eisenstein. Il a eu des prix Staline. Et puis, à partir de 48, ça a été la dégringolade. Il a été censuré, humilié publiquement. Donc, il y a bien un côté tombé dans la gueule du loup parce que peut-être naïveté de Prokofiev, sans doute naïveté de Prokofiev, qui a mésestimé le stalinisme, enfin sous-estimé, pardon, le stalinisme. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire ça qu'il n'y avait pas dans l'esprit de Prokofiev l'idée en 36 qu'il était tombé dans la gueule du loup. En fait, il a fait un voyage de retour en URSS en 27 où il a été vraiment touché par l'accueil du public. Il a eu du succès, il a retrouvé la Russie. Et en fait, à partir de là, il a été mu par un mouvement de nostalgie, en fait, de retrouver son pays. Et puis, il a aussi traversé, au début des années 30, une sorte de, pas d'assèchement, mais de moindre, peut-être, fertilité musicale. Et le retour en URSS l'a porté, de ces années-là, l'année 35, on a eu la fin du second concerto pour violon, qui est magnifique, Roméo et Juliette, après on aura l'opéra Garépay.
Donc il a bien fait de rentrer,
musicalement.
Après,
musicalement, il a bien fait de rentrer.
Mais il s'est quand même jeté dans la gueule du loup.
Il s'est jeté dans la gueule du loup.
Dans la conclusion de votre livre, vous affirmez « Prokofiev fut multiple et contradictoire, plus que la moyenne, un homme opportuniste et naïf, pragmatique et idéaliste, arrogant et vulnérable, entier et secret, porté par une vision qui s'est formulée peu à peu, celle de la quête d'un instant à la fois présent et éternel, et donc d'une musique qui soit moderne et hors des modes, simple. L'homme est complexe, mais sa musique est simple, c'est pour ça que Prokofiev est devenu un classique finalement ?»
L'écriture de Prokofiev est à la fois très clairement identifiable, il y a un style Prokofiev qu'on reconnaît tout de suite, et en même temps, elle a beaucoup évolué au fil du temps. Il a commencé comme tête à claque, voulant être enfant terrible, donc dissonant, percussif, avec son deuxième concerto, par exemple. Et puis, petit à petit, il va changer. Mais il va changer, en fait, avec toute l'Europe musicale. Il y a un grand nombre de musiciens qui vont aller vers le néoclassicisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Prokofiev a cru, en lisant tous les écrits soviétiques, donc l'URSS appelait de ses vœux une nouvelle musique, soit la musique du peuple, en fait. Et Prokofiev a cru qu'il pourrait trouver une sorte de coïncidence entre ce à quoi il aspirait, c'est-à-dire un nouveau classicisme, ce qu'il appelait la nouvelle simplicité, et puis cette musique pour le peuple. Donc il espérait une adéquation entre une musique universelle et une musique à la fois néoclassique. Et il disait donc, je suis descendu dans les royaumes de la musique et je serai classique à la prochaine génération.
Incroyable. En tout cas, ce côté simple et naïf dont on parle lui a valu aussi cet incroyable succès, en particulier celui de Pierre et le Loup, qu'on ne se lasse pas d'écouter, de réécouter. Merci Laetitia Leguet. Je rappelle le titre de votre biographie, Serge Prokofiev, qui est paru aux éditions Actes Sud.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont vu le loup. Après Jean de La Fontaine et Sergueï Prokofiev, il est temps, Mathieu, d'évoquer un acteur qui a vu le loup pour de bon et qui est toujours parmi nous. Il n'a pas été mangé par le grand méchant loup. C'est Kevin Costner.
Oui, enfin, toujours parmi nous, à votre grand étonnement, Stéphane, puisque hors antenne, vous me demandiez à quand remonter sa mort.
Il a même fallu
que je vous montre sa fiche Wikipédia pour que vous acceptiez l'idée qu'il était toujours des nôtres. Non, Kevin Costner n'est pas mort. Il n'est juste plus bankable depuis 1992, ce qui à Hollywood est à peu près pareil. Pourtant, il reste dans nos cœurs, car pour quiconque a eu 10 ans en 1990, Kevin Costner, c'est le mâle alpha. L'homme tel qu'il doit être. Avec David, par exemple, on s'est plus construit en tant qu'homme à partir de Kevin Costner qu'à partir de nos propres pères respectifs. Je me revois, une plume sur la tête, jouant dans le champ derrière la maison avec Pépette, la chienne de la voisine, en m'imaginant que c'était un loup, pendant que David, de son côté, une plume ailleurs, parce qu'il a toujours été bizarre, rejouait la scène de Bodyguard où Kevin Costner sauve Whitney Houston en tirant sur les méchants.
Ta ta ta, ta ta ta, ta, ta.
Il imitait super mal le bruit de la mitraillette. Mais une chose est sûre, Kevin Costner était au début des années 90 l'acteur le plus emblématique d'Hollywood. D'où la vague scélérate des Kevin dans les registres d'état civil de par le monde, notamment en Picardie.
Quelle horreur.
Ne jugeons pas, Stéphane, ne jugeons pas. Kevin Michael Costner est né le 18 janvier 55 à Linwood, une petite bourgade ouvrière de la banlieue de Los Angeles. Classe moyenne supérieure, hein. Son père William est réparateur chez Edison, la compagnie d'électricité. Sa mère Sharon, assistante sociale. Les Costner déménagent souvent au gré des affectations de papounet. Kevin, lui, est un élève moyen qui se réfugie dans le sport, mais aussi la poésie. À l'époque, je m'imaginais pas acteur, je me rêvais plutôt écrivain, raconte-t-il, certainement en négligemment allongé dans un rocking chair avec un verre de brandy dans la main. Après avoir rêvé d'exploits littéraires mais aussi de baseball, Kevin s'engage dans un cursus plus classique, voire chiant, finance et marketing à l'université. Et là, avec David, on frissonne à l'idée que le héros de notre jeunesse aurait pu ne jamais devenir acteur, ne jamais sauver Whitney Houston, ni voler aux riches pour redonner aux pauvres dans la forêt de Sherwood. Oui, Kevin Costner aurait pu devenir commercial. Mais voilà non, car Kevin a quand même cette fibre artistique qui le taraude, il fréquente des ateliers théâtre du campus, et quand il s'engage dans une vie normale en épousant son crush d'adolescence Cindy Silva, actrice promise à un avenir radieux puisqu'elle incarne alors Cendrillon à Disneyland, Kevin sent que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il ne peut pas devenir un salarié comme un autre. Au retour de leur lune de miel, réel, les Costner se retrouvent dans le même avion que le célèbre acteur Richard Burton, qui a la même technique que Stéphane en avion. Il achète tous les sièges autour de lui pour être tranquille. Il n'y a que ça si on ne veut pas être dérangé par les cons, dit toujours Stéphane. Richard Burton est bien d'accord.
Comment c'est pas vrai? Comment osez-vous?
Richard est bien d'accord. Plus vous êtes connu, plus vous aimantez les cons. Kevin Costner n'étant pas encore connu en 82, je vous laisse imaginer qui joue le rôle du con dans cet avion. Ça le gêne d'ailleurs, Kevin, d'aborder la star. Mais voilà, et il est un tournant de sa vie. Il hésite toujours entre le frisson de l'expertise comptable et le métier hasardeux de comédien. Je brûlais à l'intérieur parce que j'étais tiraillé. Je n'arrivais pas à faire un choix. Donc, voir Richard Burton comme ça, je me suis dit que c'était un signe. Ma femme ne savait même pas que je me posais des questions sur ce que je voulais faire de ma vie, raconte Kevin. Qui prend donc son courage à deux mains. « Excusez-moi, monsieur, quand vous aurez un moment, puis-je vous demander un petit conseil ?» Burton le regarde et lui répond « When I finish my book, yes. » Quand j'ai fini mon livre, oui.
Oh non.
Kevin attend donc patiemment que l'illustre Richard Burton termine sa lecture, mais il a de la chance, il était plongé dans Secret d'Histoire, mon cahier de vacances, qui se lit assez vite. Soudain, il repose le livre, fait un signe à Kevin et la discussion s'engage. Intimidé et maladroit, Kevin fait ce qu'il ne faut surtout pas faire quand une star vous accorde quelques minutes de son précieux temps. Il commence à lui raconter sa vie.
J'ai travaillé, moi, pendant 5 ans dans une entreprise qui s'appelle l'agence Kappa.
Ah ouais.
Finalement, peut-être pour le remercier d'avoir fait office de l'exomime naturel durant ce vol où Richard peinait à trouver le sommeil, le grand acteur encourage Kevin à poursuivre son rêve. Mieux, à la sortie de l'aéroport, la limousine de Richard Burton s'immobilise un instant devant le jeune Costner. La vitre s'abaisse et Burton lui dit « Dis donc, vous auriez pas 40 balles pour du popper? Je suis un peu short, j'ai une soirée. » Non, il lui dit pas ça, je vais vérifier que vous suiviez. Non, il lui dit simplement « Good luck, young man ». Et bingo, en 87, la carrière de Costner décolle avec deux films à succès, No Way Out et Les Intouchables de Brian De Palma, dans lequel il interprète le légendaire agent Elliot Ness aux côtés de Sean Connery et Robert De Niro. Cette fois, Kevin Wu est lancé, il est un acteur important, montant et bientôt un réalisateur avec son premier film derrière la caméra, Coup d'essai, coup de bête, puisque ce premier film, c'est tout simplement Danse avec les loups. Au casting, pour le rôle de John Dunbar, Kevin Costner hésite d'abord entre lui-même et un jeune acteur qui démarre aussi, Stephen Byrne. Mais le goût d'essai de Byrne n'est pas méga concluant.
Eurydice, fais le loup.
Kevin Costner décide finalement de se choisir lui-même. Danse avec les loups est un quitte ou double pour lui. Un budget de 19 millions de dollars, à l'époque c'est absolument énorme. 18 mois de tournage, dont 5 en pleine nature dans le Dakota du Sud. Le film dure 3 heures, remporte 7 Oscars sur 12 nominations, dont celui de meilleur film, et engrange 424 millions de dollars au box-office mondial. Kevin y incarne donc le lieutenant John Dunbar, qui après une tentative de suicide ratée est envoyé dans un poste frontière au milieu de nulle part. Une fois au milieu des immenses prairies vallonnées, des buffles et des autochtones, il tombe amoureux de la beauté de la nature et du mode de vie amérindien. Un film sublime en forme de rédemption pour cette Amérique qui oublie parfois comment elle s'est construite et surtout à quel prix. Je marque un temps parce que c'est quand même hyper beau ce que je dis. Bon, pas autant que la fois où Stéphane avait dit...
Le roumain, c'est vrai, est une langue magnifique quand elle est parlée par des roumains.
Mais bon, c'était beau quand même. L'histoire du tournage, c'est une de plus belles phrases, Stéphane. L'histoire du tournage de Danse avec les loups est belle aussi, figurez-vous. Kevin et toute la production insistent sur le respect et l'authenticité, notamment sur tout ce qui concerne évidemment les Amérindiens et leur représentation. La coiffe du chef indien, par exemple, est modifiée 7 fois afin de coller au plus près à la réalité historique. Au départ, elle finissait par une plume bleue, alors que chez les Comanches, la dernière plume de la coiffe, tout en haut, est toujours verte. Comme dit Stéphane, les Indiens...
C'est comme les poireaux, le bout est toujours vert.
Bien, pour tous les locaux engagés dans l'équipe du film, les contacts occasionnels avec Kevin Costner restent d'excellents souvenirs. Il est gentil, généreux, accessible, et tout le monde l'appelle simplement Kevin. Contrairement à certains animateurs spécialistes d'histoire et du patrimoine qui exigent qu'on les appelle Monsieur ou Votre Majesté sur les tournages. Le directeur de l'hôtel où séjournait la majorité de l'équipe se souvient que tout le staff s'était habitué à la présence sympathique de cette superstar d'Hollywood pourtant si accessible, sauf peut-être cette serveuse qui un matin lève les yeux, aperçoit l'acteur et fonce droit dans un mur, renversant tout un plateau du petit déjeuner. Elle était complètement émoustillée. Et vous savez quoi ? Kevin est venu l'aider à tout ramasser, c'était ça aussi. Kevin Costner. Chaussette, le loup du film, est en revanche moins sympa que Kevin. Il est d'ailleurs interprété par deux loups différents, Buck et Teddy. Ils se montrent pas toujours très coopératifs sur le tournage. Ils ont des demandes impossibles, comme des moutons ou des enfants frais. Ils arrivent en retard, connaissent la moitié de leur texte et mordent la maquilleuse. Je ne raconterai pas ici la belle relation qui est née entre ces loups et Kevin Costner, car elle est trop précieuse pour être salie une fois de plus par l'incorrigible lubricité de Stéphane Bern, véritable boule de stupre qui avait déjà ruiné le romantisme de mon histoire de la meuf qui s'était mariée à la Tour Eiffel, avec cette réflexion tout en finesse de sinistre mémoire. Stéphane, je vous raconterai une belle histoire d'amour entre une certaine Erika et la Tour Eiffel.
Oh, j'ai hâte que vous nous racontiez la nuit de noces.
Oh voilà, voilà, les succès suivront pour Kevin, avec notamment Robin des Bois, Prince des voleurs, qui de nombreuses années après reste comme un des meilleurs Robin des Bois, plus fort encore que la version de Matt Pokora au Palais des Congrès.
Être seul,
être sans.
Quelle horreur.
Et ne jugeons pas, Stéphane, ne jugeons pas. On adore Matt Pokora. Bon, moi aussi, j'ai préféré la version de Kevin, même si c'est dommage. On a appris que la scène où il est tout nu sous la douche, c'est pas vraiment lui qui est tout nu. Nous sommes en 91. Kevin Costner prend les loups par la patte, les Indiens par les plumes. Il prend aux riches pour donner aux pauvres. Et surtout, il prend Whitney Houston. Selon Dolly Parton, c'est à Kevin Costner, qui était aussi le producteur du film Bodyguard, qu'on doit la présence de cette chanson mythique « I Will Always Love You » dont « I Will Always Love You » dans le film. Il était fan de la chanson, la version originale, celle de Dolly Parton en 73, donc il a demandé à Whitney si elle pouvait l'enregistrer. Il était à fond. « J'ai dit qu'il fallait également la chanter a cappella au début. J'avais besoin qu'elle commence a cappella parce que ça montre à quel point elle aime ce mec, au point de chanter sans musique. » Si jamais je croise un jour Kevin, je lui expliquerai qu'il n'y a pas besoin d'aimer follement quelqu'un pour chanter sans musique. Il suffit d'être bourré. Stéphane, démonstration.
Toute première fois.
C'est QFD. Bodyguard, en tout cas, vient conclure les deux meilleures années de la carrière cinématographique de Kevin. La suite ressemble plutôt à une gentille déroute. Hein. Les amateurs de jeux de mots se réjouissent du fait que le film Waterworld prend l'eau. Scénario douteux, décor qui brûle, désaccord avec le réalisateur qui se barre en plein montage. C'est un four monumental pour Kevin Costner, dont la côte chute à Hollywood. Pour s'occuper, durant sa traversée du désert, Kevin monte un groupe et se produit sur des petites scènes. Ça, c'est, par exemple, c'est notre Kevin. Je dis que ça s'écoute. Hein. C'est pas pire que Stéphane chantant du jeune masse, en tout cas. Bref, la carrière de Kevin connaît un coup de mou.
On ne sait toujours pas comment il est mort.
Je vous le répète, Stéphane, Kevin Costner n'est pas mort. Là, c'est pas parce qu'on ne le voit plus que quelqu'un est mort. Je sais que c'est dur à comprendre pour vous, mais il y a une vie hors des écrans. Des écrans où Kevin apparaît toujours. Hein. Je suis dur dans la série Yellow House et même sur Netflix dans The Highwaymen, même si je dois avouer que mon algorithme ne me l'a pas proposé. Donc non, Kevin Costner n'est pas mort. Il se fait juste plus discret depuis quelques années, n'en déplaise à Stéphane, qui ne comprend pas comment on peut être au top un jour et dans l'ombre le lendemain, comme le prouve cet échange extrait de notre dernière coupure pub.
Et une dont on n'entend plus du tout parler, c'est Britney Spears.
Mais Britney Spears, je t'ai fait le portrait ici, elle est séquestrée par ses parents.
Mais oui, mais elle chante plus.
Parce qu'elle a des problèmes psychologiques.
Mais elle peut chanter avec des problèmes psychologiques. Regarde, Sheila, elle chante.
On embrasse Sheila, Stéphane, elle adore l'émission. Ça lui fera plaisir,
oui, moi aussi en plus.
On peut être vache parfois comme ça.
Oui, mais surtout vous.
Mais pourquoi vous sentez obligé toujours de débailler comme ça dans votre récit des piques contre moi? Je vous ai rien fait, Mathieu.
Mais si, vous m'avez fait des choses que je ne peux pas révéler à l'antenne. Bah déjà, vous m'avez lancé dans ce métier de fou.
Ben oui, mais alors, c'est pas une raison pour m'en vouloir.
À chaque fois, vous le paierez jusqu'au bout.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces chanceux qui ont vu le loup.
Ne soyez pas jaloux, Stéphane. Pour vous remonter le moral, je vous propose de retrouver nos merveilleux chroniqueurs. Avec eux, le présent fait sens par l'entremise du passé. Je ne sais pas si c'est clair.
Non, mais c'est pas grave.
Le coq au vin, Olivier Pouls, voilà le plat dont vous nous parlez aujourd'hui. Est-ce vraiment un coq, d'ailleurs?
Alors, ça peut être du coq, mais ça peut ne pas l'être.
Ah, voilà.
En tout cas,
c'est super clair.
En tout cas, dans la recette originale, si l'on peut dire, c'est bel et bien du coq. Vous verrez qu'après, il a laissé sa place à d'autres volatiles.
À sa poule.
Et parfois, quand le coq n'est pas en très bonne santé, on mange le coq au vin et on est patraque. D'où vient cette expression?
Oui, d'où ça vient, être patraque. Je vais vous le raconter tout à l'heure. Ça sera le mot de la fin.
En attendant, les origines d'habitude d'un objet du quotidien aujourd'hui, d'une couleur, le fluo.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était enfant, on aimait les plaisirs simples. On aimait les fraises tagada, parce que les fraises tagada, c'est frontal comme nourriture. Ça ne cherche pas midi à 14h. Dans la musique, on aimait les accords majeurs parfaits qui font pas chier le monde, genre do majeur. Oui, ça fait plaisir.
Mais c'est quoi votre synthé, surtout?
Quand on est enfant, c'est un synthé qui s'appelle Starlight. Et surtout, quand on est enfant, on aime les couleurs qui en foutent plein la face. Hein. Rouge vif, bleu vif, jaune vif. Il y a qu'à voir dans la façon dont on décore encore aujourd'hui les chambres d'enfants, hein, pour s'en rendre compte. Mais ce qu'on kiffe par-dessus tout quand on est enfant, en tout cas moi, quand j'étais enfant, c'était quand même le fluo. Si vous voulez, le fluo, quand on est enfant, c'est comme des fraises tagada pour les yeux. C'est-à-dire, ça fait vraiment super plaisir. Et je dois dire que pendant les mois qu'ont duré les manifestations des Gilets jaunes, l'enfant en moi était assez content de voir ces grappes de fluo se détacher sur le gris des pavés. Et je suis allé comme ça à quelques manifestations des Gilets jaunes que pour ça, que pour observer ce fluo. Je l'aurais pas dit, hein, sinon parce que non, ça leur aurait sans doute énervé. Voilà.
C'est mieux, vous avez bien fait de garder ça pour vous.
Et j'ai voulu pour la couleur.
J'ai voulu pour la couleur, excusez-moi. Mais alors, du coup, là, ça m'a donné envie de savoir d'abord, le fluo, c'est quoi? Eh bien, le fluo, c'est une substance de type chelou qui a une caractéristique sympa, c'est qu'elle absorbe des ondes que l'œil humain ne perçoit perçoit pas, qu'on appelle les ultraviolets, et les transforme en ondes qu'on voit, par exemple des ondes bleues. Et c'est sur ce principe que fonctionne déjà la lumière noire dans les boîtes de nuit. La lumière noire, c'est une lampe à UV, tout simplement, qui se sert du fait que la plupart des vêtements qu'on achète aujourd'hui, en particulier les vêtements clairs, sont traités avec des substances fluorescentes. Et donc, quand on éteint la lumière normale et qu'on allume une lampe à UV, eh bien, vos vêtements blancs, ils brillent dans le noir.
Les pellicules aussi, d'ailleurs.
Ouais, et ça marche aussi avec d'autres choses bien. Ça marche avec la lessive, par exemple. La lessive est fluorescente. Et aussi des choses qui sont naturellement fluo, comme par exemple les dents. Quand vous souriez sur la lumière noire, vos dents brillent. Mais aussi, chose que peut-être on sait moins, le pipi. Voilà, le pipi est fluorescent.
Tiens,
si vous mettez du pipi sous la lumière noire, et ben ça brille. Et alors, le fluo des gilets jaunes, c'est un petit peu pareil. Sauf qu'en plus, ils brillent même en pleine journée. Pourquoi ? Eh bien, parce que non seulement ils prennent les UV, mais aussi plein d'autres ondes qui composent la lumière visible. Et toutes ces ondes-là, ils les transforment en ondes jaunes. Et c'est pour ça que, quand vous voyez les gilets jaunes, même quand il fait gris, en fait, et ben voilà, vous avez un jaune qui est beaucoup plus fort qu'un jaune normal. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe, le fluo ? Eh bien, pour le savoir, une fois de plus, j'ai dû déplacer ma race de plusieurs milliers de kilomètres pour aller en Caroline du Nord, dans une ville qui s'appelle New Bern. New Bern, ça veut dire la Nouvelle Berne, et vous savez, ça fait partie de ces milliers de villes du Nouveau Monde qui sont la version souvent moche, mais pas toujours moche, d'une ville européenne qui, elle, est jolie. Il y en a partout, hein, New Berlin, New Madrid, New Prague, New Rochelle, New York aussi. Bon, ça, c'est plutôt une ville jolie, mais c'est le même principe. Bon, la principale gloire de New Bern en Caroline du Nord, c'est que c'est là qu'a été inventé le Pepsi en 1893. D'ailleurs, au passage, est-ce que vous savez pourquoi le Pepsi s'appelle le Pepsi ? Voilà.
Trivial poursuite. Le son, la sonorité de Pepsi,
Non.
Parce que déjà le Coca-Cola existait déjà.
Oui, mais la même époque à peu près.
D'accord.
Non, c'est parce que c'est censé guérir les indigestions. Au départ, c'était censé guérir les indigestions,
c'est
le Pepsi. Et que le nom scientifique de l'indigestion, c'est la dyspepsie.
Ah.
Et ça, si ça, ça peut pas sortir
attendez,
dans les vidéos.
Je comprends pas. Vous nous avez offert une origine en plus dans l'origine
tout à
du
fait.
Jour,
ouais.
Qui n'avait rien à voir.
Qui n'avait rien à voir.
C'est
et
cadeau.
En plus, et ça, c'est
cadeau.
Sûr, vous allez vous en souvenir et vous allez faire la prochaine fois que vous voyez Pepsi, je suis sûr que vous allez
sans
pouvoir.
Sans souvenir, j'irai pas jusque là. Mais c'est ma mémoire, mais bon.
Mais à New Bern, il y a aussi, à part l'inventeur du Pepsi, il y a aussi une maison de retraite dans laquelle il y a un monsieur un peu vieux, comme le sont généralement les gens qui vivent en maison de retraite. Ce monsieur, il s'appelle Paul Switzer et c'est le fils de Joe Switzer et le neveu de Bob Switzer. Les deux frères, donc Joe Switzer et Bob Switzer, les deux frères qui, il y a presque 90 ans, ont inventé le fluo qui brille le jour. Et donc, j'ai parlé un grand moment avec lui. Il m'a raconté l'histoire de son papa et de son oncle, donc. Et donc, au départ, Bob et Joe Switzer, ils ont fait c'était dans les années 20-30, ils faisaient des expériences avec des substances invisibles qui brillent dans le noir, celles dont j'ai parlé au début de cette chronique. Et ils les vendaient en particulier aux morgues. Et les embaumeurs dans les morgues, ils s'en servaient pour savoir si le liquide d'embaumement avait bien pénétré jusqu'au bout des doigts des gens. Alors ils mettaient le liquide, ils allumaient la lampe à UV et paf, si les cadavres brillaient bien jusqu'au bout, eh ben c'était bon. Le père de Monsieur Switzer, il appelait ça les grands-mères qui brillent. Voilà, les grands-mères qui brillent dans le noir. Et puis un jour, ils se sont dit que ce serait cool de faire des choses fluo qu'on puisse voir bien le jour aussi. Et en 1935, après quelques années de recherche, ils y sont arrivés. Alors, à votre avis, quel a été le premier gros client des frères Switzer pour leur peinture fluo qui brille le jour ?
Les routes ?
Non.
Avant les routes.
Ça, Stéphane. Moi, j'aurais dit les routes aussi, comme Stéphane.
Les tarmacs d'aéroport.
On s'approche énormément.
Le train.
C'est lié à l'aviation. C'est pour l'armée de l'air américaine. Elle se servait du tissu fluo des frères Switzer pour marquer au sol les positions des troupes alliées. Parce que ça se voyait de super loin et ça permettait aux avions de ne pas bombarder leur propre position. Voilà. Alors, dans les années qui ont suivi la guerre, le business du fluo a explosé. Aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a dans les Cheetos, par exemple, dans la nourriture, même les...
Qu'est-ce que c'est les Cheetos?
Les Cheetos, les petites boulettes au fromage, goût fromage, vous voyez, qui sont orange fluo. Non, vous connaissez pas, je suis le seul à connaître les Cheetos.
Ouais, j'ai pas
en régie,
vous connaissez pas.
Voilà, en régie, on connaît les Cheetos, c'est quand même fou.
Je ne sais pas s'il faut s'en enorgueillir, hein,
c'est
franchement.
C'est possible. Et bien sûr, dans l'encre des surligneurs Stabilo, et bien sûr aussi dans les gilets dits de haute visibilité, qui servent soit à changer un pneu sur l'autoroute, soit à montrer qu'on est très énervé contre la société. Et on se dit quand même que si Bob et Joe Switzer, ils n'avaient pas existé, eh bien, il n'y aurait pas eu de mouvement des gilets jaunes. Et ça, il aurait pris un autre nom sans doute, mais il aurait pas pris cette forme-là, en tout cas.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire de la gastronomie avec notre spécialiste Olivier Pouls. Aujourd'hui, Olivier, un thème très important pour Stéphane Bern, ouais. Qui a, il le dit assez souvent à ce micro, un poulailler, le coq au vin.
Oui, il m'a appelé hier en me disant, dis donc, elles font beaucoup de bruit, mes poules, j'aimerais bien me démarrer de deux, trois d'entre elles.
Donc, le coq au vin, c'est des poules.
Le coq au vin, aujourd'hui, c'est beaucoup de poules, mais à l'origine, c'est bel et bien un coq. Et il y a une légende que j'aime beaucoup sur l'invention de ce plat qui est aujourd'hui un des plats emblématiques de la gastronomie française, mais qui aurait été inventé, figurez-vous, par un certain Jules César, ou en tout cas son cuisinier.
C'est bidon, ça. Alors, qu'est-ce que Jules César, il avait ça à faire?
Ce Jules César qui n'a pas inventé, vous le savez, mon cher Mathieu, la salade César.
Je le sais grâce à vous.
Voilà, il a inventé en revanche le coq au vin. Alors, l'histoire est assez amusante. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Lors du siège de Gergovie, César s'apprête à affronter Vercingétorix. Hein, la bataille va arriver dans quelques heures. On est chaud de chaque côté des lignes. Et Vercingétorix envoie à Jules César un message sous la forme d'un coq. Parce que le coq, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise la fureur, le courage, la combativité des forces françaises. Et donc, il envoie ce message à Jules César en disant « Écoute, mon gars, accroche-toi parce que ça va chauffer. » La veille de la bataille, on est encore entre gentlemen à l'époque, hein, Jules César, figurez-vous, invite Vercingétorix à manger et il lui sert son coq, préparé dans du vin. D'aucuns prétendent que c'est l'invention du coq au vin. Alors, mal lui en a pris, parce que je vous rappelle quand même que
Gergovie,
à Gergovie, Jules César, il a pris une sacrée déculottée. Bon, allez-y, à quelques temps plus tard, les choses vont tourner différemment. Mais en tout cas, c'est de là que viendrait cette légende. Et ensuite, j'ai regardé, mais dans les livres de recettes de cuisine des 18e et 19e siècles, on ne trouve pratiquement aucune trace de coq au vin. Ce plat disparaît, et probablement pour une bonne raison. C'est que de un, le coq est réputé en réalité trop ferme et trop dur pour être mangé. C'est pas l'animal de la basse-cour le plus passionnant. Et d'autre part, parce que quand dans les fermes et dans les basse-cours, on a des coqs, c'est le dernier qu'on va manger puisqu'il sert à la reproduction. Donc on mange plutôt les poules et pas les coqs. Et la première vraie recette de coq au vin qu'on retrouve, elle date en fait du 20e siècle en Bourgogne, où on trouve une préparation du coq. Et ce coq, il faut l'attendrir, parce que quand vous avez un coq et que vous le cuisez peu de temps, c'est pratiquement immangeable. Donc c'est une recette en plusieurs temps. Il faut d'abord bouillir l'animal, il faut le faire mariner, il faut le cuire. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce ne sont plus des coqs qu'on utilise pour faire cette préparation, mais plus volontiers des poules, des poulets ou des poulardes qui ont une chair plus moelleuse, plus tendre. Le coq au vin, c'est quand même un plat plutôt roboratif, donc je vous propose une version un petit peu plus allégée. Et pour ça, on va pas aller en Bourgogne, qui est quand même la région, on va dire, phare du coq au vin, qu'on a même préparé un moment, figurez-vous, au Chambertin. Dieu sait qu'on avait les moyens, exactement, quand on sait qu'aujourd'hui, une bouteille de Chambertin, c'est au minimum 250€ la bouteille, ça fait un peu cher le plat. Aujourd'hui, bien évidemment, on ne le fait plus. Mais moi, je vous emmène un petit peu plus à l'est, en Alsace, où on prépare une version du coq qui est au Riesling. Et avec ce vin blanc qui a une acidité assez marquée, je trouve que l'association est vraiment très intéressante. C'est un petit peu plus léger, on n'a pas les tanins du vin rouge. Et donc, vous allez prendre une belle volaille, bien sûr, des petits oignons grelots, des lardons, carottes, une bouteille de Riesling, évidemment, un petit peu de champignons, quelques champignons frais émincés, une petite goutte de cognac et, bien évidemment, une cuillère de farine pour singer la préparation. Donc, c'est assez simple. On fait revenir singer. Je vais vous expliquer dans un instant.
Revenir. Vous avez tiqué. Vous ne connaissez pas bien le lexique gastronomique, j'ai l'impression.
Quelques mots de plus en plus, mais celui-là, non.
Rappelez-nous ce que veut dire singer.
Je vais vous le dire dans un instant, parce que vous faites revenir vos morceaux de volaille dans de la matière grasse. Et ensuite, vous, là, singer, c'est-à-dire que vous mettez de la farine, vous l'enrobez avec la farine, et cette technique va permettre ensuite d'épaissir la sauce.
Mais je fais ça avec ma blanquette, je ne savais pas que je singeais.
Singe, quand on fait une blanquette, on singe la viande.
Et singer, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle singer.
Non. Voilà, donc on va faire revenir les petits oignons grelots, les lardons, les carottes, les champignons, etc. Une petite goutte de cognac, et ensuite on verse le Riesling, on couvre, et on laisse cuire tranquillement pendant 40-45 minutes, le temps que la volaille soit bien moelleuse. Et on termine en liant avec un tout petit peu de crème. Et voilà, Stéphane, on passera dans le courant de la semaine prochaine. Vu le nombre qu'on est dans l'équipe, en prélevé deux. Et puis vous nous garderez les plumes.
Oui. Ah ben oui, pour votre coiffe.
Des coiffes d'Indien.
Ah oui, tout à fait. Eh bien écoutez, merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Stéphane, lui, est prêt à nous donner le mot de la fin. Aujourd'hui, Stéphane, Je suis patraque, d'où vient ce mot étonnant, hein ?
Alors oui, patraque, c'est se sentir un peu malade, pas à l'aise, on couvre quelque chose. Est-ce que patraque a pu s'écrire en deux mots par le passé ? Je veux dire, est-ce que le pas dans patraque est une négation dans l'expression ?
Oui. Si je suis en forme, je suis trac. Si je suis pas trac, je suis en...
Non. Faut dire que ma question est bête.
Pas trac, mais presque.
Pas du tout, Mathieu. Je suis d'autant plus cruel de vous contredire que c'est moi-même qui écris votre question.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse.
Pas trac. Oui, mais si vous avez la nullité de la lire, en plus.
Moi, je tombe dans le panneau.
Oui, c'est ça. Pas trac est une traduction pure et simple de l'italien. Eh oui. On disait chez nos voisins « pataca ». Avec un T et deux C. Pataca était en fait une monnaie qu'on utilisait à Malte et qui était sans grande valeur.
Pataca.
Oui. C'est au XVIIe siècle en France que être patraque est utilisé. On dit également une patraque pour désigner une vieille machine qui fonctionne mal, qui est mal fichue. On utilisait notamment ce mot pour les vieilles montres et les horloges vétustes. Et c'est vrai que quand on est patraque, la machine se grippe et personne ne peut plus compter sur nous. Notez qu'aujourd'hui, plutôt que de se sentir patraque, en Espagne, on dit « estar como una patata ». On se sent comme une patate. Effectivement, c'est peu glamour. En Angleterre, c'est « to be off color », ne plus avoir de couleur, être un peu pâle, donc. Alors qu'aux États-Unis, c'est « to be running out of steam », commencer à manquer de vapeur. Il est temps de remettre des bûches dans la cheminée. Allez, reprenons tous du poil de la bête grâce à Francis Blanche qui disait « Quand on a la santé, c'est pas grave d'être malade.
» Sacré Francis Blanche. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, et pas n'importe lequel, ce numéro où on recevait Fabrice Lucchini qui nous a gratifié de merveilleuses fables de La Fontaine dont on a découvert qu'il les connaissait vraiment par cœur, Stéphane.
Ah ben oui, bien sûr.
Puisqu'il avait même eu un trou au milieu d'une fable.
Il avait eu un trou parce qu'il est sur un tournage, c'est normal, ce qui peut arriver à tout le monde.
Et il a embrayé sur une autre fable qu'il connaissait
toutes par cœur. Et je dois vous avouer que pendant le premier confinement, il m'a bien aidé avec ses fables, ça me faisait une récréation, c'était très agréable.
Interview, vous pouvez évidemment retrouver en podcast sur europe1.fr. Stéphane, pour le plaisir, vous nous rappelez une dernière fois le thème de notre émission ?
Ouh ! Ils ont vu le loup.
Vous avez une manière de positionner votre lèvre, vraiment.
Ouh,
on sent le travail de comédien. Quel est le personnage du jour qui vous a le plus intrigué, que celui que vous connaissiez le moins ?
Écoutez, Kevin Costner, j'avais entendu
pas du
son
tout.
Nom.
Mais comment on peut passer à côté ? Mais vous aviez quel âge en 1990 ?
Oh, j'étais très âgé déjà.
Vous n'alliez pas au cinéma.
Non, en fait, pour vous dire la vérité, je vois très peu de films américains.
C'est vrai.
Oui, j'aime beaucoup les comédies françaises.
Ah, vous êtes très comédie française.
Très
c'est bon
français.
À savoir.
Voilà, j'ai un peu
la grande patrouille, quoi.
Voilà, oui, c'est ça, moi.
Il s'est arrêté à la grande patrouille. Vous avez déjà beaucoup donné, Stéphane, aujourd'hui.
Ah oui, beaucoup.
Est-ce
vraiment...
que vous auriez encore la force, si vous n'êtes pas trop patraque, de nous livrer le programme de demain ?
Oui, demain, une colère manifeste.
Je vous sens en colère, effectivement.
Mais non, ça boue. Moins qu'elle, en tout cas. On réunit trois badass du féminisme qui ont fait part de leur colère dans un manifeste. L'anglaise Mina Loy, Valérie Solanas et son célèbre Scum Manifesto, où elle s'en prenait violemment aux hommes.
Et Virginie Despentes et son fameux King Kong Theory. Bref, demain, on fait tout sauter, Stéphane.
Oh, j'ai peur,
ça va bien se passer.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.